Radio Viramont.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour écouter la deuxième émission de radio sur le thème du réchauffement climatique. On va maintenant entendre 5 rubriques que vont nous présenter les élèves de la classe 10P4 de Saint-Roch. Mais avant, une chanson de David Bowie and Queen qui s'appelle Under Pressure.
Bonjour, alors aujourd'hui, Tuivi et moi-même Zinette, nous allons aborder le sujet des catastrophes naturelles qui touchent le changement climatique. Donc Tuivi, sais-tu si les catastrophes naturelles sont en augmentation?
Oui, elles sont en augmentation.
Quelles sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes dans le monde?
Les plus fréquentes dans le monde sont les tornades, cyclones, inondations et sécheresses.
J'ai aussi récemment entendu parler d'un des plus grands cyclones de l'Amérique. Il s'agit de l'ouragan Katrina qui s'est passé en août 2005.
Peux-tu nous éclaircir sur ce sujet?
Oui. Alors Tuivi, sache tout d'abord qu'un cyclone est une zone où la pression de l'atmosphère est très faible. On appelle cela une dépression qui tourne sur elle-même. C'est souvent lié à des vents très très violents.
Merci. À présent, je vais partager avec vous ce que je sais sur les tornades. Alors, c'est un phénomène météorologique très violent et destructeur. C'est un tourbillon de vent très dangereux qui se déplace comme une gigantesque toupie. Elle peut durer quelques minutes, voire même plus d'une heure, et peut provoquer énormément de dégâts.
Merci. Moi, je peux t'expliquer ce qu'est une sécheresse. Alors, c'est une période où il y a un manque d'eau. Elle peut faire apparaître des fentes ou des craquelures de dessiccation, et surtout empêcher les cultures.
Peux-tu me citer une région ou un pays qui a été fortement touché par la sécheresse?
Oui. Par exemple, il y a la Somalie qui était en période de sécheresse entre 1982 et 2011, ce qui fait environ 30 ans, une longue durée quand même. Et cela a aussi causé de graves famines.
Ok. Passons aux inondations. Il s'agit d'un débordement d'un cours d'eau ou d'une rivière. Ce débordement envahit les terrains voisins.
Très intéressant.
En effet, il y a quelques années, en juillet 2010, de graves inondations ont envahi le Pakistan, un pays situé en Asie. Plusieurs personnes ont été affectées. Il y a eu environ 1 800 morts et plus de 10 millions d'habitants qui ont perdu leur maison, ce qui est vraiment énorme. Ces inondations se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année.
Waouh, c'est impressionnant.
Oui, mais c'est sur ce triste sujet que nous allons conclure. Nous espérons que notre rubrique vous aura été utile et que nous trouverons vite des solutions pour éviter les catastrophes.
Merci à tous pour votre attention et voici la musique Love Song to the Earth de McCartney. Au revoir.
This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now.
Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow.
Looking down from up on the moon, it's a tiny blue marble. Who'd have thought the ground would stand on?
Could be so fragile.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre rubrique géographique. Alors aujourd'hui, avec Vladimir, on va parler de la fonte des glaces et des conséquences que cela implique. Donc première question, depuis quand la fonte des glaces est-elle un gros problème?
Alors tout d'abord, bonjour Alessandro. Et oui, en effet, la fonte des glaces est un phénomène grave qui a pris beaucoup d'ampleur depuis notamment le début du XXe siècle. C'est en particulier à cause de nouveaux moyens de transport qui sont apparus. Donc la pollution a augmenté, et avec elle, en effet, le gaz à effet de serre. Mais en particulier après l'année 1992, c'est devenu assez critique quand le volume moyen de glace perdu a commencé de dépasser les 83 milliards de tonnes par an.
Faut dire aussi qu'en 2012, la banquise arctique a atteint des records de fonte. Elle a fondu à 49%, soit 3,3 millions de kilomètres carrés. Mais à cause de quoi cela arrive et comment stopper ça?
Alors, j'ai pas grand chose à dire à propos de cela, à part qu'il faut vraiment limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Un des principaux problèmes, c'est aussi la montée des eaux. Si cela continue, on pourrait dire adieu aux Pays-Bas et pas que.
En effet, depuis le début du XXe siècle, le niveau marin varie entre 0,1 à 0,3 mm par an, donc ça augmente. Pour dire juste, en 2007, la mer a monté de 17 cm, et si tout cela continue comme ça se passe maintenant, d'ici 2100, ça va augmenter de 25 à 50 cm. Donc c'est vraiment un gros problème pour les pays qui se trouvent près de la mer.
Alors oui, l'élévation du niveau de mer est certes une conséquence du réchauffement climatique via deux processus, la dilatation de l'eau de la mer et la fonte des glaces. Et alors, qu'en est-il des ressources d'eau douce? Car depuis un moment, c'est une ressource en danger, en voie de disparition même.
Alors, c'est très simple. Donc, les glaciers représentent la source primaire d'eau douce sur notre planète. Certes, il y a aussi des lacs, mais c'est rien par rapport aux glaciers. Alors, comment ça disparaît? Vous allez dire, bah, ça fond et puis ça fait de l'eau, elle disparaît pas. Mais c'est plus compliqué que ça, car le glacier fond et l'eau du glacier se mélange avec l'eau salée dans laquelle il flotte, on peut dire ça comme ça. Et bah, cela implique la disparition d'eau douce qui se mélange avec de l'eau salée.
Alors encore une question très importante à ce sujet. Quel impact cela a sur les animaux qui s'y trouvent, sur ces glaciers?
Alors, je dirais que l'espèce qui est le plus en danger, c'est l'ours polaire, car la banquise et son lieu de vie, il en dépend beaucoup, normalement, enfin, sans doute. Et vu que les glaciers, ils fondent, bah, ces proies, qui sont des pingouins et puis des phoques, bah, eux, ils peuvent partir, car ils mangent leurs petits poissons dans l'eau, ils savent nager. Et tout va bien, mais l'ours polaire, bah, il disparaît car ces animaux-là, ils partent avec, enfin, en nageant, quoi. Et puis lui, il n'arrive pas vraiment, car c'est un animal fort, sans doute, mais il se fatigue beaucoup après avoir nagé beaucoup de kilomètres, comme chaque espèce sur Terre qui sait nager.
Donc, tout cela voudrait dire que l'espèce peut disparaître?
Alors oui, tout à fait, car entre 2003 et 2007, il n'y en avait que deux ours polaires sur 80 qui survivaient. Donc c'est vraiment grave.
Voilà, on va terminer sur ce point triste. On vous laisse, à très bientôt. Et maintenant, Final Countdown de Europe.
Bonjour, je suis Juliette Kneuss et aujourd'hui avec Céline Tutivène sur Radio Villamont, nous allons vous parler de la recrudescence des maladies tropicales.
Oui, chaque année, ce problème prend de plus en plus d'importance.
En effet, il y a plus de 1,5 milliard de personnes infectées par une maladie tropicale dans le monde, et la plupart sont causées par de simples piqûres de moustiques.
Le problème, c'est qu'il est impossible de tuer tous les moustiques, car ils ont un rôle dans l'écosystème. Il faut donc les remplacer par des moustiques qui ne peuvent pas transmettre le virus.
Qu'est-ce que tu veux dire par transmettre le virus ?
En fait, les moustiques ne font que transmettre la maladie. Ils n'en sont pas la cause. Lorsqu'ils piquent une personne infectée, ils vont prendre le virus et le transmettre à la prochaine personne qu'ils piqueront.
De quel virus parles-tu ?
Il y a la chikungunya, mais encore la dengue et beaucoup d'autres.
J'ai entendu parler du chikungunya. Est-ce que ce serait la maladie qui provoque de fortes migraines par hasard ?
Oui, c'est ça. Mais aussi des douleurs articulaires, des troubles de la peau et aussi parfois des problèmes digestifs.
Est-ce que c'est une maladie mortelle ?
Le chikungunya est une maladie handicapante, certes, notamment à cause de la fatigue, mais peu de personnes en meurent. Il faut surtout prendre soin des personnes infectées. D'ailleurs, on a noté de plus en plus de cas de maladies transmises par les moustiques depuis le début du réchauffement climatique.
Oui, le réchauffement climatique accélère la croissance des moustiques, dont seule la femelle pique. Et par conséquent, le processus de transmission des maladies est lui aussi accéléré. D'ailleurs, c'est une des hypothèses probables qui pourrait expliquer la recrudescence des maladies tropicales.
Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses probables ?
Oui, beaucoup. Par exemple, vu que les échanges de marchandises sont plus nombreux et que les humains se déplacent de plus en plus, nous prenons contact avec de nouveaux virus inconnus. Ce même phénomène se produit lors de la déforestation, comme par exemple en Amazonie en ce moment. Les médicaments et les vaccins aussi ont favorisé le développement de nouveaux virus, alors qu'ils ont, paradoxalement, aussi aidé à en guérir d'autres.
Comment faire pour nous protéger de ces maladies ?
Il faut déjà savoir que les États prennent des mesures pour nous protéger de ces épidémies.
Mais alors, que faire de notre côté ?
N'oubliez pas de mettre à jour vos vaccins et utilisez des moustiquaires en été, surtout le soir.
Ne mettez pas trop d'insecticides pour éviter d'habituer les insectes et éviter les eaux stagnantes, telles que les étangs, les marais, etc.
Et évidemment, si vous ressentez de quelconques symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin.
Et tout de suite, on écoute Don't Hurt, une chanson créée pour le film d'animation sur l'écologie Wall-E, sorti en 2008.
Got a lot on your chest. Well, you can come as my guest. So come on down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing. And the land will be looked after. We send the seeds out in the breeze. Like the fish in the ocean, we felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got up on two legs. We wanted to fly. And when we messed up our homeland, we set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to come. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the land will be looked after to send the seeds out in the breeze. We're coming down, coming down to earth, like babies of birth, coming down to earth. We define your priorities. These are extraordinary qualities.
Bonjour chers auditeurs, auditrices, nous allons vous parler des réfugiés climatiques. Pour commencer, le terme de réfugié climatique est apparu pour la première fois dans un rapport édité par les Nations Unies en 1985.
Et oui, cela remonte à bien longtemps. Il désigne des personnes forcées à quitter leur pays, suite à des catastrophes naturelles.
Imaginez-vous un pays plat, sans montagne, élevé à peine 50 cm au-dessus du niveau de la mer.
Le Bangladesh, petit pays d'Asie du Sud-Est, exactement peuplé de 150 millions de personnes. Il n'y a rien, aucune infrastructure pour contrer les montées des eaux.
Il se pourrait que d'ici 2050, le pays ait perdu environ 20% de sa superficie à cause notamment de l'augmentation du niveau de la mer.
Il développe des maladies de peau, de force à se laver avec... Dans le sud du pays, par exemple, dans le district de Saktitra, on a du mal à trouver de l'eau potable.
Pour sauver la montée des eaux, pour cause, la montée des eaux provoque une montée du taux de sel et les habitants ont beaucoup de mal à trouver de l'eau potable.
Ils développent des maladies de peau à force de se laver avec de l'eau salée. Dans le district, les 40 000 habitants vivent sans une goutte d'eau potable.
Ils doivent parfois prendre le bateau pour se ravitailler en eau potable, qui est là-bas considérée comme de l'or bleu.
La salinité affaiblit les animaux d'élevage, vaches, chèvres et poules. Pour s'en sortir, les gens se voient contraints d'immigrer. Et voici une chanson sans terre d'asile de Kenny Arcana.
Fatigué j'avance, la nuit des espoirs est lâche, écrasé par terre. La vie m'a dit lève-toi et marche ma fille. Va au bout de tes rêves et méfie-toi de l'ordre. Des prisons cérébrales héritées de l'histoire de l'homme. Regarde le monde, sans t'imprégner de son mal. Des tonnes de rêves en sommeil et des êtres humains façonnables. Des révoltes récupérées, des souffrances grisées. Crimes d'état banalisés comme les enfants brisés. Alors j'ai couru, je me suis retourné, j'étais seul. J'ai cherché et j'ai vu qu'il y avait plein de frères et sœurs. Plein condamnés à errer ou à rentrer malgré nous dans leur rang. Parce qu'il n'y a pas de place pour nous dans leur monde. Le temps voudrait nous corrompre à force de fermer les portes. La vie m'a dit méfie-toi de l'inertie de ton époque. Combien de fois nos vies supportent-elles? Moi je t'aime d'écrire ce port. Sans terre d'asile car la grandeur nous attire. Parachuté dans un monde incompatible avec ce à quoi on aspire. Enfant de la terre, ici c'est notre âme qui nous saute. Étranglé par l'histoire, elle va de refuge pour nous autres. Sans terre d'asile, on erre dans l'air du temps. On résiste sans poser genoux à terre devant la bête. Viens clamer qu'on existe. Ennemis du 666, on dérange. Époque apocalyptique, on marche épaulé par les anges. Trouverai pour leur format, nos aspirations agonisent. Enfermés dans leur schéma, persécutés par leur police. Ici le diable nous diabolise, nous tente, nous pousse à balle dans la pente. Résistante qu'un droit de vivre est aboli. Alors je reste sur mes gardes, sans jamais baisser la mienne. Sans me rabaisser, quoi qu'il advienne, ils m'ont blessé et a coulé la haine. Ils appellent être adulte, c'est commettre l'adultère. Tromper l'enfant qui est en toi pour devenir ce qu'on t'a dit d'être. La vie m'a dit, reste-toi, méfie-toi de l'illusion. Suis ta voix, elle t'amènera à ta guérison. Alors j'arpente la vie, esquivant leur vice de guerre. Sans répit, sans repère, orpheline de terre. Car la planète est séquestrée, qu'il n'y a pas de place pour nous ici. Qu'on nous a dit, faut se plier, que ça c'est pas possible. En cavale, sans terre d'asile, on est plein à rêver dans notre monde. On est plein, fais passer le mot, on est en plein asile. Car la grandeur nous attire, parachuté dans un monde incompatible avec ce à quoi on aspire. Enfant de la terre, ici c'est notre âme qui nous saute. Étranglée par l'histoire, elle va de refuge pour nous ordre.
Salut Alice, tu vas bien?
Oui, oui, merci Jenna.
Tu sais, hier, aux infos, j'ai entendu parler des inégalités face aux risques. Et j'ai pas compris ce que c'était. Tu saurais m'expliquer?
Oui, bien sûr. Alors, une inégalité, c'est lorsqu'il y a une certaine injustice entre deux personnes, deux pays ou entre deux continents, par exemple.
Ah, alors quand ma sœur reçoit plus d'argent de poche que moi, c'est une inégalité?
Ouais, plus ou moins. Tu savais qu'un milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable, alors que toi, tu prends une douche tous les jours? Là, on peut vraiment parler d'inégalité.
Mais c'est quoi la différence avec une inégalité face au risque?
Une inégalité face au risque, ça veut dire une injustice humaine face à un risque. On trouve deux sortes de risques. Les risques technologiques et les risques naturels. Les risques technologiques sont issus de créations humaines. On peut prendre comme exemple ce qui s'est passé en 2011 à Fukushima, avec l'explosion de la centrale nucléaire. Les risques naturels sont issus de la nature. Mais il y a encore des facteurs aggravants comme la densité de population et l'urbanisation dans les régions volcaniques, dans les bassins fluviaux et dans les zones côtières. Aujourd'hui, 2/3 de la population mondiale vivent dans une zone à risque.
Ah oui, les risques naturels, qu'on appelle aussi aléas naturels, sont par exemple les tsunamis, les tornades, les séismes ou encore les éruptions volcaniques. En gros, on parle de processus atmosphériques, hydrologiques, géologiques ou géomorphologiques. Mais un aléa ne devient un risque qu'en présence d'enjeux humains, économiques et environnementaux. C'est juste?
Oui, exact. Par exemple, le Japon est situé dans une zone particulièrement exposée aux phénomènes naturels. Les Japonais savent comment agir lors d'une catastrophe grâce aux mesures prises par les autorités et les médias dès leur plus jeune âge. en apprenant de quelle façon réagir à une catastrophe ou en construisant par exemple des bâtiments parasismiques.
Et tu sais où se situent principalement ces inégalités ?
Dans les pays développés, on peut prévoir les catastrophes. Même si les dégâts matériels sont souvent importants, il y a moins de morts. Les technologies de pointe sont de plus en plus efficaces concernant la détection et la prévention face aux risques. Mais surtout, le pays est en mesure, après une catastrophe, de se reconstruire à la différence des pays en développement qui ont, eux, des moyens insuffisants pour prévoir les catastrophes et réagir. Les catastrophes freinent leur développement et ils sont dépendants de l'aide humanitaire qui provient des pays développés. Face à des situations de risque équivalentes, les pays du Nord sont moins vulnérables que les pays du Sud.
Oui, par exemple, la côte sud-ouest des États-Unis est une zone sismique et est traversée par des trajectoires de cyclones. Les États-Unis, qui sont un pays développé et riche, peuvent prévoir les risques et donc se protéger. Par exemple, le 12 mai 2015, au Texas, en l'espace de 3 semaines, l'État a connu de la sécheresse puis des inondations. Les pluies torrentielles ont causé au moins 21 morts. Aujourd'hui, il ne reste presque aucune trace de cette catastrophe. Alors qu'en Indonésie, la capitale Jakarta, on court tout à la fois des risques sismiques, volcaniques, ou de cyclones et des tsunamis. L'Indonésie a été ravagée en fin d'année 2015 par de violents incendies intensifiés par des tempêtes venues du Pacifique. À la différence des États-Unis, l'Indonésie est un pays avec une majorité de population pauvre, en voie de développement. Le pays ne peut pas prévoir les risques et ne peut donc pas se protéger. Aujourd'hui, les dégâts commis par cette catastrophe sont toujours visibles. Du reste, je voudrais juste te faire écouter une chanson d'un rappeur qui s'appelle Oxmo Puccino, qui traite très bien le sujet des inégalités. Il parle des différences entre les pays du Nord et les pays du Sud, et aussi des inégalités entre les humains.
Ici Paris, il est tard. Le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler, qu'ils viennent vivre à 1000 mètres carrés, chacun son cube, y vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, soleil du Nord, soleil du Nord. Quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clown sous des fenêtres. Sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville un tissu cousu de périphérique. Le printemps nous transforme en sauvages. Au premier rayon on plonge sans plage. On attend l'été pour s'entasser chez les autres. Ces gens du sud à l'accent chaud, on ne partage pas les mêmes horizons. Pour vivre les vôtres nous cotisons. Je voudrais vous y voir à courir les bidonvilles, rêvant de tour d'ivoire où élever ta fille. Soleil du Nord, soleil du Nord. Famille nombreuse avec un seul salaire, c'est voir la mère à 20 ans, 19 étés de galère.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Et pour conclure en musique, voici une chanson qui se nomme Over the Rainbow.
Once in a love, the bond.